du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tout l'évangile d'aujourd'hui a pour objet la foi. Et notre Seigneur félicite le lépreux et puis le centurion. Il va même jusqu'à dire « Je n'ai pas trouvé autant de foi en Israël. Je n'ai jamais trouvé autant de foi en Israël. » Et il termine en remettant les choses au point et en disant que ce ne sont pas ceux qui le croient qui seront sauvés, mais ceux qui ont la foi. Alors vous avez tout d'abord, au début, tout cet évangile baigne dans une très grande délicatesse. Le lépreux attend que notre Seigneur soit descendu de la montagne, et il vient, il le vénère, Adorabat, il le vénère, et il lui dit, « Seigneur, si vous le voulez, vous pouvez me guérir. » Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de violence, c'est plein de délicatesse, et c'est surtout un très grand respect de la Providence. Parce qu'après tout, il n'est pas nécessaire d'être guéri. Et c'est à Dieu de voir dans sa Providence ce qui convient mieux. Nous avons déjà un enseignement pour notre époque, parce que nous pourrions, et nous avons certainement eu trop souvent la tentation, de dire à Dieu ce qu'il devait faire. Mon Dieu, il me faut ceci, il me faut la messe tous les dimanches, il me faut une école catholique pour mes enfants, il me faut un prêtre à ma disposition, et au lieu de lui dire, si vous voulez, Seigneur, vous pouvez me donner la messe. Si vous voulez, Seigneur, vous pouvez me donner une école. Si vous voulez, Seigneur. Parce que, il faut quand même bien se rappeler qu'il y a dans le monde de nombreux chrétiens qui n'ont pas les facilités que nous avons, parce que le bon Dieu n'a pas voulu les leur donner. On verra d'ailleurs, à la suite, à la fin, que ceux qui avaient le plus reçu, qui étaient les fils d'Abraham, les fils du royaume, eux seront rejetés dans les ténèbres extérieures, parce que ceux qui ont moins reçu ont eu plus de foi. Donc c'est la foi qui va faire la différence. Et il y a un grand risque à avoir beaucoup reçu lorsque on n'est pas conscient d'abord de ce que c'est un don, et après ça de la grandeur du don. Mais d'abord d'être conscient que c'est un don. Tout ce que Dieu nous donne est un don. Rien ne nous est dû. Si Dieu nous promet le ciel, c'est parce qu'il nous a fait d'abord le don du baptême et de la foi. Rien ne nous est dû. Nous ne sommes que des créatures. Et la reconnaissance de notre dépendance envers Dieu est la condition primordiale pour nous sauver. Et alors donc, le lépreux dit à Dieu, lui expose la situation et lui dit « si vous voulez ». Et alors, après cela, on aura la même chose avec le centurion. Le centurion se contente d'exposer la situation. « Seigneur, mon serviteur, est à la maison malade, paralysé, et il est au plus mal. » C'est tout. Lui-même a attendu son tour. Il est venu à son heure. Il n'a rien bousculé. Et alors, Jésus lui dit, c'est bien, je viendrai le guérir. Et alors le serviteur qui dit, oh, ne vous dérangez pas. Ça n'est pas nécessaire. Vous êtes tout puissant, vous pouvez fort bien agir à distance. Et là, nous avons également la foi dans ce qu'il y a de spirituel. On n'a pas besoin de voir nécessairement. Bien sûr, le lépreux a été touché par notre Seigneur Jésus-Christ. Il le touche pour le guérir. Et puis, pour le serviteur du centurion, ce sera à distance. Pour nous montrer que dans l'Église, il y a beaucoup d'éléments visibles qui nous font du bien parce qu'ils nous touchent. Et que certaines fois, quand la foi est vive, à ce moment-là, il n'y a plus les éléments visibles qui nous touchent physiquement. Et nous vivons dans la foi et dans la vie intérieure. Puisqu'on est dans la délicatesse, vous avez également une grande délicatesse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui après avoir fait ce miracle de guérir le lépreux, et qui touche le lépreux, le pauvre homme que personne n'avait le droit de toucher, qui était mis à part, et qu'il touche avec beaucoup de bienveillance, il lui dit, n'en parle à personne. On imagine Monseigneur Lefebvre, voyez, ayant fait un miracle. Bon, il n'en a pas fait, le bon Dieu n'a pas voulu qu'il en fasse, parce que ça aurait faussé notre combat. Le combat est un combat de la foi, et il faut se fixer uniquement sur la foi, et c'est pour ça que le bon Dieu n'a pas voulu qu'il y ait des miracles chez Monseigneur Lefebvre. Mais imaginez, Monseigneur Lefebvre aurait dit, bon, n'en parlez à personne, dans sa modestie, c'est pas la peine d'ébruiter les choses. Alors, notre Seigneur dit la même chose, je ne suis pas là pour faire de l'esbrouf, je ne suis pas là pour faire du sensationnel. Alors c'est inutile d'ébruiter, l'autre n'en tiendra aucun compte. Mais peu importe. Et alors, ces hommes ont la foi, et le centurion a la foi bien qu'il soit un païen. Et du coup, il n'est plus païen, bien qu'il soit un gentil. Et notre Seigneur va les louer pour cette foi, et il va faire une promesse. Il promet au centurion le ciel. Et il promet à ceux qui n'ont pas la foi les ténèbres extérieures. Là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Et aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la foi. Bien sûr, le démon et le monde moderne ont réussi à cacher cela et à faire croire qu'il ne s'agit pas directement de la foi, puisque Mgr Felet dit que jamais il ne touchera à la doctrine. Cependant, c'est bien la foi qui est en jeu. Parce que pour nous, la foi est première et elle guide tout le reste. Pourquoi la foi nous sauve-t-elle? Parce que elle est ce qui tire tout le reste, ce qui donne sa raison d'être à tout le reste et qui nous fait agir. Nous ne disons pas que la foi sauve sans les œuvres, ce serait une hérésie, l'hérésie protestante. Mais la foi suscite les œuvres. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, parce que les œuvres toutes seules ne suffisent pas à sauver. Tous ceux qui étaient présents au pied de la croix, au calvaire, n'ont pas été sauvés, parce qu'ils n'avaient pas tous les dispositions pour profiter de leur présence. Donc ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Bien sûr, la foi seule ne sauve pas, la foi ne sauve qu'avec les œuvres. Pourquoi? Parce que la foi suscite les œuvres. Et lorsque Mgr Felet veut faire un accord avec Rome en disant il n'y a pas d'accord doctrinal, c'est-à-dire chacun reste sur sa position, cela veut dire que je fais Je mets la doctrine de côté, donc je mets la foi de côté, parce que la doctrine, c'est la foi. Je mets la foi de côté. Ce n'est pas la foi qui dirige tout. Et ça, c'est une forme d'apostasie. C'est une forme d'apostasie de ceux qui ont la foi. C'est l'apostasie du peuple choisi par Dieu qui refuse le Messie, qui a le Messie et qui refuse le Messie. Et alors, ce que Dieu nous demande, c'est de conserver la foi au milieu du monde. Alors vous allez me dire, mais Dieu veut également que nous transmettions la foi. Oui, c'est évident, mais il veut que nous la transmettions au milieu des difficultés que sa sagesse nous a faites. Et il veut que nous n'anticipions pas, c'était le sujet de l'évangile de dimanche dernier, mon heure n'est pas encore venue, il y a une heure pour toute chose. Et ceux qui ont compris sont appelés à être vraiment ces témoins de notre Seigneur, là, une foi vive, et beaucoup d'autres qui, pourtant, avaient beaucoup plus reçu, vont laisser le sel s'affadir et la foi passer au second plan. Et vous en avez un exemple, la foi qui passe au second plan, avec la nouvelle définition de l'Église, à laquelle beaucoup de tradis ne font pas attention, qui est erronée. On fait passer l'autorité avant la foi. On fait passer le pape avant la foi. Les chrétiens sont ceux qui sont soumis au pape. Vous avez ça dans le catéchisme rouge. Qu'est-ce que c'est que l'Église ? Qu'est-ce que l'Église ? L'Église, c'est l'assemblée des chrétiens soumis au pape et au pasteur légitime. Vous prenez le catéchisme de Saint Pie X. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens qui ont la foi, qui pratiquent les mêmes sacrements et sont soumis au pasteur légitime. Avec en plus cette précision, légitime, qui n'est pas dans le catéchisme des diocèses de France. Et vous avez dans la fraternité une priorité qui est donnée à l'union autour du chef, au-dessus des convictions. Gardez vos convictions, mais si elles vont jusqu'à s'opposer au chef, alors gardez-les, mais taisez-les. Et ça, c'est un changement de définition. Monseigneur Lefebvre, lui, au contraire, rappelait, l'Église, c'est la foi, et le pape est au service de la foi. C'est-à-dire que le pape a sa raison d'être dans la foi. Quand il ne sert plus la foi, on ne lui obéit plus. La question de savoir s'il est pape ou pas pape, ça c'est une autre affaire, et qui est très mondaine d'ailleurs. C'est pour ça que nous n'acceptons pas le cédévacantisme, parce que le cédévacantisme, je ne dis pas ceux qui pensent que le pape n'est pas pape, ça c'est une autre affaire, ils peuvent le penser, mais ceux qui en font une doctrine, le cédévacantisme, l'erreur du cédévacantisme, c'est de poser en premier, comme nécessaire, la réponse à cette question, qui est pape ? Et de là découle la place dans l'Église. Nous faisons l'inverse. Nous posons en premier la question, où est la foi ? Et de là, nous savons où est l'Église. Les cédévacantistes font la même erreur de principe que ceux qui se rallient. La définition du chrétien se fait par rapport au pape. Or, ce pape et pape, disent les ralliés, donc nous lui obéissons. Or, ce pape est mauvais, donc il n'est pas pape, disent les cédévacantistes. Et dans les deux cas, vous avez une définition de l'Église qui est faussée. Et notre Seigneur loue la foi, et il la loue tellement que elle fera entrer dans le royaume des païens qui ont eu la foi, et seront rejetés en enfer des élus, ceux qui avaient été choisis à l'origine, et qui n'ont pas voulu reconnaître notre Seigneur. Mais vous allez me dire, alors s'il suffit de cela pour être sauvé, alors c'est très facile. Bien oui. Oui, c'est très facile. Bien sûr, il y a quelquefois des circonstances qui rendent l'acte de foi plus pénible. Parce que je vous l'ai dit, la foi sans les œuvres ne suffit pas. Une foi vraie est une foi qui suscite les œuvres. Qui suscite les œuvres et qui les suscite. Pourquoi ? Elle les suscite dans le but de la foi. C'est la foi qui pousse à agir pour le service de la foi. Et là, il y a quelquefois des exigences très fortes et qui peuvent être difficiles et pénibles. Cependant, il suffit de croire, il y a de nombreux martyrs qui ont eu la foi quelques minutes ou quelques heures avant de mourir et donc de se sauver. Ils ont reconnu que le Dieu des chrétiens était le vrai Dieu. Ils ont vu passer des martyrs, vous avez des Romains, des bourreaux même, qui ont vu passer des martyrs, et qui se disent, mais oui, c'est eux qui ont le vrai Dieu. Ah, ils se mettent dans la file des martyrs, puis sont exécutés aussi. Et le bon Dieu leur a pas demandé beaucoup d'œuvres. Si, de se mettre dans la file des martyrs. Notre-Dame est gardienne de la foi. C'est presque son premier titre, parce que elle est la mère de Dieu. La première chose, elle proclame la divinité de son Fils. Et nous devons lui demander d'abord de garder la foi, de conserver la foi en nous, de nous aider, de nous assister pour conserver la foi, et de nous protéger contre les embûches contre la foi, du monde moderne. Et ne vous y trompez pas, hein. S'il y a dans le monde des mauvais qui veulent faire tomber dans leur vice, il y a essentiellement le maître du monde, Satan, qui veut faire perdre la foi. Et comme les hommes sont influençables par les sens, les passions, alors il utilise le moyen des sens, des passions, les moyens extérieurs pour occulter la foi, pour l'anesthésier et pour la faire perdre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen.